Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877-827-2346.
Alors, Joseph Facal est avec nous. Joseph, il te reste moins de 2 semaines pour terminer la construction de ton bunker sur ton terrain pour te protéger de l'éclipse solaire. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as commencé à acheter des canages, là?
J'ai commencé à acheter des canages, mais j'ai eu de la misère parce que j'ai vu qu'au Costco, plein de gens avaient la même idée que moi. Donc, tout le monde se ruait sur le papier de toilette. Non, clairement, Richard, là, vraiment, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Je pense que je dois demander conseil à Benoît Dutrisac, qui connaît ça, la fin du monde. Il faut que je me dépêche de mon bunker, parce qu'évidemment, l'apocalypse... s'approche. Je veux évidemment regarder l'éclipse et je me suis rendu compte que je n'ai pas de lunettes de soleil. Mais heureusement, m'a dit ma blonde, t'as tes vieilles lunettes de ski alpin que j'ai été retrouvées dans le fond d'un sac. Alors oui, effectivement, je me prépare pour la fin du monde, l'éclipse du 8 avril, je crois.
Écoute, il va y avoir des accidents d'auto, page 20 du Journal de Montréal. Il va y avoir une augmentation des accidents de chars sur les routes à cause de l'éclipse.
Richard, je sais plus par quel bout le prendre. Notre société est obsédée par la précaution, obsédée par la prévention, obsédée par le refus du risque. Alors justement, tu as vu ce matin, le gras serait maintenant plus dangereux que l'alcool. Attention, j'ai vu un autre article qui disait « Hey, méfiez-vous, il pourrait y avoir des bébites dans vos fruits. » Alors écoute, franchement là, Richard, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait le 8 avril? Mémo à Bernard Drainville, homme heureusement qui ne semble pas déserté par le bon sens. C'est pas compliqué, on garde les écoles ouvertes. On explique aux enfants ce qui va se passer et on transforme l'occasion en cours de science. Tabarouette, c'est aussi compliqué que ça. On est une société où on donne des trophées à tous, y compris à ceux qui perdent dans un tournoi de hockey. Une société où les profs s'écrasent devant un enfant qui rouspète parce qu'il n'a pas tout à fait eu la note qu'il voulait. Une société où on donne des diplômes à la fin de la maternelle. Alors, je m'excuse. Une société qui se contente de si peu est une société qui se condamne à la médiocrité.
Et t'en parles dans ta chronique, c'est drôle parce qu'on ne s'est pas concerté, toi et moi, et bien qu'on prenne 2 angles totalement différents, on arrive un peu à la même conclusion dans nos textes aujourd'hui, c'est-à-dire cette société d'hypersensible, et tu parles des livres, tu sais, quand tu vas, bon, tu es allé au Salon du livre avec ton livre, et tu vois le nombre de livres sur la pop-psycho, comment te protéger, comment... Tu sais, à un moment donné, on est rendu des momones, désolé.
Ah, Richard, il faudrait ici faire 1001 distinctions. J'ai pas le temps, je n'en fais qu'une. J'exclus ici, évidemment, les gens qui ont de lourds problèmes de santé mentale, qui commettent une tragédie, pensons récemment à la policière, et tu te demandes qu'est-ce que ce gars-là faisait en liberté. Je parle pas de ça. Je parle des coachs de vie, je parle de l'ésotérisme, je parle des cristaux guérisseurs, je parle du succès d'émissions comme Dr. Phil, où les gens viennent parler de leur bébite, je parle des antidépresseurs, des taux de suicide, des psychologues qui débordent, je parle de tous ces ados qui ont un mal de vivre normal et qui pensent que, youpi, je vais changer de sexe, ça va tout régler. Il y a un mal de vivre, il y a une angoisse existentielle dans nos sociétés. Et quand j'essaie de comprendre d'où ça vient, ben j'ai comme toujours mes chers lecteurs qui me disent « voici une piste ». Et comme je l'explique, ben c'est probablement le propre des sociétés riches, des sociétés opulentes, des sociétés blasées qui n'ont plus vraiment de danger existentiel ou de nécessité de lutter pour leur survie.
De gouvernement, et je cite aujourd'hui dans ma chronique cette toune « Mother » que j'adore de Pink Floyd, tirée de l'opéra rock « The Wall », alors où justement Roger Waters chante « Mama's gonna make all your nightmares come true. Mama's gonna put all her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. C'est ça. Ouais. On va toutes nos peurs, là, on va toutes les transmettre, on va te terroriser. Là. On veut tellement là, que nos enfants là, soient en sécurité qu'on les terrorise, on les angoisse. Et c'est pour voilà. ça, là, on prend nos angoisses, on les met dans nos enfants, puis après ça, on se dit, mais pourquoi ils sont si anxieux? Mais Christy, on est là en train de les survoler en hélicoptère, puis de vérifier leurs moindres petits gestes. Mais c'est certain qu'ils deviennent anxieux.
Richard, je veux pas être mal compris. Je n'idéalise pas le passé et je ne plaide pas pour une société pauvre et guerrière. Mais fondamentalement, pendant quelques centaines de milliers d'années, le chasseur-cueilleur s'est construit dans l'adversité face à une nature hostile, face à des tribus ennemies. Et aujourd'hui, évidemment, ben le chasseur-cueilleur, qu'est-ce que tu veux, il va au Costco, puis il s'écrase devant Netflix. Alors, ça provoque cette espèce de moumounisation totale. Moi, je m'excuse, Richard, mais ça fait pas 2000 ans. Quand j'étais jeune, on allait dans la ruelle avec des amis, en vélo, puis on se poussaillait dans la cour d'école, puis j'avais tout le temps des croûtes sur les genoux éraflées. Il me serait même pas venu à l'idée d'aller me plaindre devant mon père qui m'aurait dit « Fais un homme de toi ». Écoute, tu sais, je t'en ai souvent parlé, je t'ai beaucoup cassé les pieds avec ça, ces deux grands psychologues américains que j'aime beaucoup, Lukianoff et Jonathan Haidt, qui ont tout résumé ça en disant « Notre société élève les enfants sur la base de trois idées fausses. » Idée fausse numéro un, priorise toujours tes sentiments. Priorise toujours ton ressenti. Autrement dit, évacue le réel. Idée fausse numéro deux, ce qui te menace, ce qui pourrait t'affaiblir, tu dois le fuir. C'est le contraire. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. On sait ça depuis Nietzsche. Il faut se coltailler à l'adversité. Et troisième idée fausse, la vie est un combat entre les bons et les méchants. Ce qui explique évidemment l'incroyable rectitude morale de tant de jeunes qui sont devenus les petits curés de notre époque. Non. Je crois qu'on a perdu de vue le bon sens. Et pourquoi? Ben, je te soumets deux hypothèses faciles, Richard. La première, tu sais, moi je suis athée, ou si tu veux, agnostique à 99,9%, mais indéniablement, autant la religion catholique pouvait jadis être pesante, oppressante, rétrograde, autant son déclin a laissé un vide existentiel que beaucoup de gens ne savent pas comment combler et donc se lancent dans les sectes et toutes sortes d'autres conneries. Et bien entendu, hypothèse 2, les réseaux sociaux font que beaucoup de gens vivent dans des univers imaginaires. Et donc, quand ils sont confrontés à la réalité, ils savent pas comment dealer avec le réel.
Hypothèse 3 que je te soumets. Vas-y. Hypothèse 3. Tu sais, il y a des gens qui, quand ils sont pauvres, ils viennent d'un milieu pauvre et ils ont faim. Ouais. Ils sont ambitieux, ils veulent travailler fort, ils veulent se sortir de leur milieu. Et là, soudainement, ils travaillent fort comme des fous. Et là, ils s'enrichissent. Puis là, ils réussissent à vivre dans un quartier aisé et tout ça. Et leurs enfants qui vivent soudainement, qui grandissent dans la richesse, mais eux autres, ils n'ont pas d'ambition. Ils s'assoient et s'écrasent, puis ils ont la cuillère dorée dans la bouche. La même chose. Avant, nos grands-parents, peut-être, étaient dans un environnement qui était difficile, qui était dur, qui était menaçant. Ils devaient travailler comme des fous, puis tout ça. Ils ont construit une société qui nous protège, OK? Puis là, soudainement, nous, on grandit dans cette société-là qui nous protège, puis on n'a plus d'anticorps. On n'a plus rien parce qu'on n'a plus besoin de se battre nous-mêmes parce que c'est l'État-providence qui va nous protéger. Maman va tout le temps être là. Fait que là, on est là. Puis voilà, le moindre petit virus, on capote.
c'est ça, on ne fait plus face à des dangers tangibles. On a comblé la majorité de nos besoins vitaux. Alors évidemment, dans ce vide, ben qu'est-ce que tu veux, se multiplient les névroses. Et tu remarqueras que ce point de vue est particulièrement bien documenté par des gens qui sont souvent nés dans des pays pauvres ou nés dans des régimes totalitaires. Ce qui te ramène vraiment à l'essentiel. Dans ma chronique, je cite « Gracieuseté d'un lecteur qui a attiré mon attention là-dessus », une citation du grand philosophe roumain Émile Cioran, ah oui, qui disait « Les thérapeutiques mentales foisonnent chez les peuples opulents. L'absence d'angoisse immédiate y entretient un climat morbide. » Je cite, « Les sociétés se consolident dans le danger et s'atrophient dans la neutralité. Là où sévissent la paix, l'hygiène et le confort, les psychoses se multiplient. » Effectivement, quand l'essentiel est comblé, souvent par d'autres, ben là, tu cherches un sens à ta vie et tu t'égares dans toutes sortes de chemins de traverse, de cul-de-sac et d'insignifiance. Oui. Non, on vit pas. Une époque amusante.
Les époques difficiles créent des êtres humains solides. Les êtres humains solides créent des sociétés protectrices. Et les sociétés protectrices créent des êtres humains hypersensibles qui vont vivre dans une époque molle.
Richard, le meilleur conseil... Alors, mon oncle Richard et mon oncle Joseph, le meilleur conseil que je pourrais donner à un jeune de 18-19 ans, c'est fais ton sac à dos et va-t'en voyager dans le fin fond de l'Afrique ou dans le fin fond de l'Asie. Voilà.
Mais est-ce qu'ils... Tu sais, on les a pas habitués à confronter...
Je sais.
Puis là, ils sont angoissés, puis là, tu sais, c'est les psys, puis on va les bourrer de pilules, puis etc., puis toute la fin. Tu sais, comme moi, la chroniqueuse du Wall Street Journal que je cite aujourd'hui dans mon texte, là, elle dit, j'en ai rien contre les psys, parce que comme tu disais tantôt, là, effectivement, il y a des gens qui ont vraiment des gros problèmes, puis qui ont besoin de psys, mais on a créé une culture de psys.
Ah oui.
Une culture de psys où, tu sais, devenir adolescent, ben c'est avoir des angoisses, c'est avoir des difficultés, c'est te chercher, puis tout ça, ça fait partie de la vie. Mais là, on voit ça comme étant quasiment des maladies qu'il faut guérir.
Et comme toujours, c'est l'exagération de ce qui, au départ, était une bonne intention. On est parti de quelque chose de fondamentalement juste, qui est, on peut tous avoir occasionnellement des problèmes de santé mentale, ne t'enferme pas, parle-en, exprime-toi, il y a des ressources, reste pas à broyer du noir seul dans ton coin. Ça, fondamentalement, c'est une bonne chose. Mais finalement, on transforme la moindre petite affaire en névrose et je crois que c'est toi, Richard, corrige-moi si je me trompe, un jour, je te faisais remarquer que c'est probablement pas un hasard que tous les films de science-fiction, tous les films qui anticipent le futur sont toujours des films déprimants.
Ben oui.
Des films où on nous dit angoissant. Que ça va aller plus mal. Angoissant. Et toi, tu m'avais dit, attention, il paraît que Coppola, oui, dis-moi si je déconne, Coppola s'en viendrait avec, oui, un film futuriste, optimiste.
Utopique, optimiste, qui s'appelle, ouais, Mégalopolis, qui sort là, en 2024.
Bon, je t'avais répondu, mais c'est un ovni, cette affaire-là. Comment peut-on voir le futur de manière optimiste? Je peux te dire que j'ai super hâte de voir comment un génie comme Coppola peut dessiner un avenir radieux. Parce que moi, franchement, je le vois pas pantoute.
Lui, il dit, ça va être mon héritage aux jeunes. C'est ça qu'il dit. Mais il faut lire la chronique de Joseph. La société se décompose sous nos yeux. Et je répète là, la fin de ta citation de Cioran, qui est un penseur que j'adore, Cioran. Là où sévissent la paix, l'hygiène et le confort, les psychoses se multiplient. Il y a l'avais-tu tout vu, là? Il a écrit ça, quoi, écoute, dans les années 50, peut-être, s'il y aura?
Ah oui, oui, absolument. Écoute, c'est drôle, parce que ta chronique est la mienne aujourd'hui, comme tu dis, sans qu'on se soit vraiment coordonné, me font penser aux deux guitares à la fin de Hotel California. Tu sais, quand les deux gars jouent la même tune, là.
Mais je veux pas idéaliser le passé. Je veux pas être nostalgique, mais Joseph, entre toi et moi, on a-tu été chanceux de vivre notre jeunesse dans les années 70? On a-tu été chanceux?
Inévitablement, on fait papy quand on dit ça, oui. Mais papy assume. Ce fut une décennie formidable. On a mangé des coups, j'ai eu des crises, ça a souvent été tough, un maudit, mais j'ai adoré ça. Voilà.
Tout à fait. Merci, Joseph. Faut te lire. À demain. Bye.
Merci. Salut. Bye.